Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 3 février 2023. Et hier soir à 22h à la clôture de New York, les indices boursiers mondiaux étaient en pleine euphorie après que Jerome Powell ait visiblement donné son autorisation pour aller plus haut. À moins que ce soit les marchés qui aient décidé que le mantra « Don't fight the Fed » n'avait plus aucune valeur du tout. Pour faire simple, le monde merveilleux de la finance est concentré uniquement sur le fait qu'un jour les taux rebaisseront et que, comme chaque jour qui passe, on se rapproche de cet instant où plus rien ne pourra empêcher les titres de croissance de monter. On anticipe. Oui, on anticipe parce que nous sommes des anticipateurs nés. Si le monde de la finance jouait au GSEC, on n'aurait pas un coup d'avance sur l'adversaire, mais nous serions en train de jouer à la partie suivante pendant que notre opposant serait en train d'installer ses pions pour jouer la partie d'avant. Hier et avant-hier, les bourses mondiales ont clairement explosé parce que les commentaires de la Fed ne laissaient plus aucune équivoque pour la suite des événements. Le plan de marche était très clair. D'abord, on monte encore un peu les taux pour être certain que l'inflation est bien ancrée sur sa tendance baissière, mais on ne les montera plus que de 0,25% maximum, 0,5% sur un coup de folie. Et puis, après, on va rentrer dans une phase de plateau, une phase durant laquelle les taux vont rester élevés, durant laquelle l'inflation va aller directement à 3% sans passer par le start. Et puis, quand on verra que l'économie est vraiment en train de ralentir, pour ceux qui en douteraient encore, on va tous sauter de joie parce que la Fed n'aura pas d'autre solution que de baisser les taux pour soutenir l'économie. Il manquerait plus qu'une bonne pandémie avec un nouveau virus qui obligerait les gouvernements à injecter de l'argent comme on l'a fait pour le Covid et pour que le Nasdaq puisse retourner au plus haut de tous les temps. On a vraiment l'impression que tout est écrit sur des tablettes en marbre et que rien ne peut faire dérailler le marché de ce plan quinquennal qui est devenu pratiquement un mode d'emploi plus qu'une prévision boursière. Hier, après la publication des chiffres de Meta qui a rajouté de l'huile sur le feu de la hausse, plus personne ne pensait à vendre. L'ensemble des indices boursiers mondiaux explosait comme un seul homme et Mark Zuckerberg récupérait 12 milliards de sa fortune en moins de 24 heures. 500 millions par heure, ça fait quand même sacrément cher comme tarif horaire. L'euphorie était partout et la conviction des acheteurs était impressionnante, comme si la Fed avait perdu la partie et que les banques centrales n'avaient plus d'influence sur le marché. Non, parce qu'en plus, la BCE a annoncé une hausse des taux de 0,5%, ce qu'on savait déjà, et qu'ils ont déjà annoncé qu'ils remettraient ça la prochaine fois, à moins qu'un miracle se produise. Un miracle qui est visiblement loin de se produire en Europe, mais les marchés s'en fichaient cordialement. On s'en fichait cordialement parce que nous avons déjà le regard fixé sur dans 12 mois. On a le sentiment que tout le monde achète pour après, quand tout sera réglé. Non, parce que là, tout de suite, c'est quand même un peu la merde, on va pas se mentir. Mais alors que le marché avait une vision à 12 minutes il y a encore 3 semaines, voici qu'il a switché et qu'il est passé en vision à 12 mois. Et puis, ce qui est chouette, c'est que l'on a vraiment le sentiment que l'on sait et que cette fois, on ne peut pas se tromper. D'ailleurs, c'est écrit dans le marbre. La performance de ces dernières semaines a de quoi pousser à l'interrogation, mais comme nous sommes tellement contents que ça remonte comme un bouchon de liège qui aurait été maintenu trop longtemps sous l'eau, que l'on ne va pas gâcher le plaisir. Il faut quand même avouer que c'est plus sympa quand tout monte et que tout est vert et que Meta prend 25% par séance que l'inverse. Pendant que le réseau social explosait à la hausse et parvenait même à faire rebondir cette daube de Snap de 10% par capillarité, le S&P 500 nous offrait une Golden Cross et le Nasdaq terminait au plus haut depuis 5 mois et s'offrait le meilleur début d'année depuis la nuit des temps. En ce qui concerne la fameuse Golden Cross, souvent associée à un changement de tendance majeur, et sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, ça ne fonctionne pas non plus à tous les coups. Il faut savoir que depuis que l'apparition du concept de la Golden Cross, qui consiste à un croisement de la moyenne mobile des 200 jours et des 50 jours sur un graphique, la moyenne la plus longue passant sous la plus courte, et 71% du temps, 12 mois plus tard, nous sommes plus haut. Alors, ce qui laisse quand même 29% de chances que nous soyons plus bas. Oui, ça c'est mon côté bougon râleur du mec qui a passé trop de temps de sa vie à Genève. On notera donc que depuis 1930, nous avons assisté à 52 Golden Cross et qu'en 2019, ça n'avait pas fonctionné tout comme pendant la phase de la bulle Internet au début du siècle et ça n'avait pas super bien marché non plus en 1986 puisqu'après, il y a eu 87. Mais bon, parler du fait qu'une Golden Cross pourrait ne pas fonctionner alors que le Nasdaq vient de prendre plus de 5% en deux séances, ça fait un peu le gars qui est frustré parce qu'il ne comprend pas toute la hausse là tout de suite. Il y a certainement un peu de FOMO, dans tout ça, et puis aussi un peu du fait qu'il ne faut pas aller contre la tendance parce que ça finit toujours par vous péter à la figure. Visiblement, depuis le meeting de la Fed, nous avons libéré le boule qui est en nous et plus rien ne semble un problème, plus rien ne nous inquiète et tout est sous contrôle. La dernière fois qu'on nous a dit que tout était sous contrôle, c'était fin 2021, au sujet de l'inflation. Puis avant, il y a eu le Titanic aussi. Bref, donc tout ça, tout va bien. L'inflation n'est plus un souci. La récession n'est pas un problème, puisque la Fed a les armes pour lui péter les dents le moment venu. Meta va racheter ses actions pour 40 milliards et c'est trop cool. Le pétrole ne fait que baisser. La guerre en Ukraine se résume à une longue liste de doléances que répète Zelensky en boucle. Les tensions politiques et militaires entre Washington et Pékin n'intéressent personne. Et Tesla a pratiquement doublé en un mois. Que pourrait-il arriver de mal ? Rien, à moins que l'on se rende compte que les chiffres du trimestre sont vraiment merdiques et que cela déclenche autre chose. Et bien justement, puisqu'on en parle... Hier soir, nous avons eu les chiffres des trois gros qui devaient publier. Mais pas que. On notera aussi que la plupart des pharmaceutiques publient des chiffres pas terribles. On peut citer Eli Lilly ou Merck qui n'ont pas montré un trimestre exceptionnel et qui se sont montrés très prudents pour la suite. On peut parler d'Estée Lauder qui a publié sous les attentes. On signera que Qualcomm qui a déçu et qui a donné un outlook qui donne envie de se bourrer d'antidépresseurs. Et puis, il y a eu Apple, Google et Amazon. Alors pour ces trois, c'était facile, hein. C'était pas terrible partout, et pour certains, c'était pire. On va faire simple, Apple a déçu sur ses ventes, sur ses bénéfices et sur ses revenus. Je ne sais même pas si c'était arrivé une fois depuis la révolution de l'iPhone qui allait couper les interactions sociales de l'être humain pour les siècles suivants. La bonne nouvelle pour Apple, c'est que le CEO a expliqué que c'était pas leur faute, mais que c'était parce qu'il leur avait manqué des composants, sinon c'était carton plein. On s'est donc dit que ça ira mieux la prochaine fois, vu que maintenant la Chine a réouvert. Apple a donc limité la casse en ne perdant que 3% after close. Et c'est pas fini. Chez Google, c'était plus simple. Ils ont à peu près tout raté dans tous les secteurs du bilan, sans compter que la pub était en chute libre, comme toutes les boîtes qui font de la pub sur le net. C'est une déception, mais comme on n'est jamais bien certain de comprendre les chiffres de Google, on peut laisser le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute n'aura pourtant pas suffi, puisque le titre perdait 5% after close. Et puis il y avait Amazon. Là aussi, vente en chute libre pour Noël, perte abyssale de 2,7 milliards sur l'année, et prise de conscience que le consommateur américain, qui est quand même le moteur de la croissance du pays, elle semble un peu sclérosée depuis que le prix des œufs, du bacon et des donuts a explosé. Amazon perdait également 5% après la clôture. Alors on va pas se mentir, ces chiffres du trimestre chez les grosses Bertha des indices ne font pas plaisir. On voit clairement que ce n'est pas un simple ralentissement, c'est un gros coup de frein qui démontre que l'économie est tout de même en train de ralentir méchamment. Ce qui est bien parce que ça fait baisser l'inflation, enfin normalement. Mais ce qui est aussi pas bien parce qu'à ce rythme-là, il faudra quand même se poser la question de la récession à un certain moment. Alors oui, bien sûr, je sais que la Fed a les moyens de lui péter les deux genoux et de remettre l'économie sur les rails et de la faire sortir du tunnel en direction de la lumière. Mais si la Fed échouait, je me prends encore pour un corbeau. Bon, nous sommes donc dans une douce euphorie qui fait du bien. On a quand même deux ou trois trucs qui nous disent de nous méfier, et c'est sûrement pour ça que les futurs sont en baisse de 0,6% ce matin. Il faut bien prendre des profits et tenir compte que trois des plus grosses capitalisations américaines vont vivre une journée compliqué, même si ce que les trois titres perdent hier soir, ce n'est même pas ce qu'ils avaient gagné durant la séance de jeudi. Du côté de l'Asie, c'est même carrément la débandade, puisque Hong Kong et Shanghai sont tous deux en baisse de plus de 1,5%, des chiffres qui donnent le tournis et que l'on n'a plus vu en Europe depuis le début de l'année. Le Japon limite la casse dans la région et progresse quand même de 0,35%. Pour ce qui est du pétrole, il est dans le même état, dans la même tendance baissière que l'inflation. Sauf que personne ne parle de lui car il n'intéresse plus que les traders pétroliers. Ce matin, le baril est à 75,67 en baisse de près de 9% depuis les plus hauts de janvier. L'or nous fait un reversal spectaculaire, un peu comme à chaque fois qu'il donne l'impression que rien ne peut l'arrêter, serais-je tenté de dire. Hier matin, on avait l'impression qu'il allait directement à 2000, mais en fait non, après un virage à 180 degrés assez spectaculaire et après avoir frisé les 1960, voici que le métal jaune se traite à 1929. Quant au bitcoin, rien ne bouge et il est toujours à 23 500. Il est encore temps d'en acheter pour faire comme Katie Wood qui pense qu'il va aller à 1,5 million dans 7 ans. Autrement, on notera les chiffres décevants de Starbucks et ceux exceptionnels de Ferrari. Ferrari qui s'attend à une année 2023 encore meilleure. En même temps, ils peuvent pas répondre à la demande, alors ça va. Et puis le groupe Adani est en chute libre alors que tout le monde est en train de sortir suite au rapport de Hindenburg. Ce matin, c'est 35% de baisse sur les actions du groupe. Et pour le reste, on ne parle plus de la Fed, plus un mot, plus de l'Ukraine. Alors si ce n'est qu'ils veulent rentrer dans l'Europe avant la fin de l'année, dans l'OTAN avant la fin de l'été, et il est probable que Zelensky demande également à devenir un État américain avant fin mars. Maintenant, tous les regards vont se porter sur les chiffres des non-farm payrolls qui sortiront cet après-midi. Les économistes s'attendent à une forte baisse par rapport au mois passé, ce qui n'est pas difficile à imaginer étant donné le nombre de licenciements qui ont été annoncés récemment. En revanche, j'ai tendance à me méfier, sachant que ces chiffres sont souvent magouillés, corrigés, et à moitié faux. Donc le marché attend 185 000 créations d'emplois et un taux de chômage en hausse de 0,1% à 3,6%. Et on surveillera surtout tout chiffre qui pourrait laisser supposer que la croissance des salaires est moins forte, ce qui pourrait donc calmer encore l'inflation. Mis à part ça, il y aura plein de chiffres type PMI, ENCO en Europe et des ISM aux États-Unis. Pour l'instant, les futurs sont donc en baisse de 0,5% et l'on vit vraiment une époque formidable. Passez une excellente journée, profitez bien de votre week-end. On se revoit lundi pour fêter le 18e anniversaire de cette chronique. À lundi et très bon week-end.